Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman et j'ai la chance et l'honneur et le plaisir d'être avec Bernard Marcadet qui va nous parler de sa grosse biographie de Francis Picabia qui s'appelle Francis Picabia Rastaquer qui est sorti il n'y a pas longtemps dans la collection Grande Biographie chez Flammarion. Bonjour.
Bonjour.
Donc une grosse biographie de Picabia après avoir fait une formidable biographie de Duchamp dans la même collection.
Oui, voilà. Parce que c'est deux compères. Hein. Comme dit de manière marrante pour emmerder sans doute André Breton, Duchamp aimait dire que c'était une sorte de pédérastie artistique. Entre lui et Picabia. Voilà, il disait Braque, Picasso, voilà, c'est une forme de pédérastie artistique. Comme il savait qu'André Breton détestait les homos, c'était, je pense, une manière de lui faire un croche-patte. Donc il y a une relation formidable entre ces deux personnages. On ne peut pas comprendre Marcel Duchamp sans Francis Picabia. Ça va dans ce sens, parce que Francis Picabia est un peu plus âgé, même d'une dizaine d'années, que Marcel Duchamp. Voilà. Donc une influence énorme de Picabia sur Duchamp, et de Gabriel et de Francis. Je crois que ce couple-là est très important pour comprendre comment, finalement, Duchamp s'est un peu déplacé de l'ennui un peu du cercle de Puteau, des dimanches où il parlait de la quatrième dimension sans rien y comprendre. Et je pense que Picabia comme Gabriel ont sorti Marcel Duchamp de cet étouffoir-là, voilà.
Oui, j'avais été très frappé à l'époque quand le livre est sorti de Gabriel Buffet-Picabia. J'étais très impressionné par sa lecture qui éclairait énormément de choses, le rapport Apollinaire, tout ça, enfin, c'est formidable. Ouais. Alors bon, disons que pour les lecteurs qui situent peut-être mal Francis Picabia, il est né en 1879.
À Paris.
À Paris. Quand il a 7 ans, sa mère meurt. Son père ne s'occupe pas de lui, c'est un garçon qui va être bipolaire, dépressif par moments. Et il a 34 ans quand il rencontre Gabriel Buffet-Picabia. Et elle accomplit, il a déjà fait toute une brillante carrière d'avant-gardiste. Et il a fait de l'impressionnisme par exemple, mais d'une façon extrêmement radicale, c'est-à-dire en... Au lieu d'aller sur le motif en peignant avec brio et virtuosité des cartes postales, mais cette rencontre avec, on peut commencer là-dessus, avec Gabriel Buffet-Picabia va complètement changer sa vie parce que pour la première fois, on va le prendre au sérieux, on va l'écouter, on va théoriser ses pratiques. Et donc lui, il dit « je crois que je ne fais plus de la peinture » et elle dit « oui, tu fais de la musique ». Et elle a une très bonne formation de musicienne et donc... Et là, on est dans un tournant où il y a la discussion sur caoutchouc, sur la peinture abstraite, qui c'est qui a fait la première peinture abstraite, etc. Donc on est... ce rapport avec Gabriel Picabia est fondamental. C'est une question que je pose. Est-il fondamental ?
Il est même fondamental pour Francis Picabia, évidemment, et pour Marcel Duchamp, qui était amoureux de Gabriel aussi. Puisque au fond, la mariée, la fameuse mariée qui est mise à nu par ses célibataires même, le grand vert de Marcel Duchamp, au fond, la mariée, c'est manifestement, en tout cas c'est mon hypothèse, mais je crois que je ne suis pas le seul à le penser, c'est Gabriel. C'est-à-dire, au fond, quand on regarde ce grand vert de Duchamp, on s'aperçoit qu'il y a une jouissance de la mariée dans le registre supérieur du grand vert, mais qu'il n'y a pas de pénétration d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une jouissance en dehors. Enfin voilà, c'est assez lacanien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel au fond. Au sens, il y a de l'amour, mais il n'y a pas de rapport sexuel. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y avait une relation amoureuse de Duchamp avec Gabriel, qui s'est ensuite évidemment, il y a eu une relation sexuelle, mais quand elle n'était plus mariée, Francis Picabia, très étrangement, pour quelqu'un qui était assez libertin, comme notre ami Marcel était assez libertin, mais là-dessus, sur cette question, Gabriel, il n'a pas transgressé cette forme d'interdit, etc. Mais c'est une femme magnifique, c'est donc c'est grâce à elle que Picabia sort effectivement de sa période impressionniste, où il, et vous l'avez très justement dit, il recopiait les cartes postales au lieu d'aller sur le motif, il disait qu'il allait sur le motif, en réalité il n'y allait pas, en ce sens il était déjà Et il avait une posture effectivement radicale à cet égard, même par rapport à l'impressionnisme. Il a gagné pas mal d'argent avec ça, mais la rencontre avec Gabriel Buffet était décisive pour lui parce que cette femme avait une aura incroyable. Elle avait fait effectivement beaucoup d'études de musique, elle était musicienne, et elle a déplacé vraiment le curseur, comme on dit. Vilaine expression, enfin bon. Elle a déplacé Francis Picabia du côté de ce qu'on va appeler l'abstraction, mais Francis Picabia se foutant des étiquettes, quand on lui a dit « Vous avez inventé le premier tableau abstrait en 1909 avec caoutchouc », la famille Kandinsky était aux abois en disant « Mais non, normalement c'est Vassili Kandinsky en 1910, mais comment ça se fait comment ça se fait que vous dites que c'est Francis Picabia ?» Et quand Nina Kandinsky, la femme de Kandinsky, a parlé de ça à Gabriel, justement, elle lui a dit « Mais est-ce que vraiment Francis Picabia a fait cette aquarelle abstraite en 1909 ?» Elle a dit « Oui, sans doute, mais Francis s'en foutait de savoir s'il était le premier ou pas. » Ça, je crois que ça, c'est vraiment la position de qui Picabia d'entrée de jeu. C'était pas quelqu'un qui voulait être le premier d'une certaine manière. Enfin, il voulait pas inventer quelque chose, etc. Il a fait cette aquarelle abstraite, et puis après, il est passé à autre chose, de toute façon. Voilà.
On peut dire globalement, il résiste très très bien à l'analyse. C'est extrêmement difficile, en fait, de comprendre ses motivations, ce qu'il fait, même à la limite, comment il le fait. Et c'est vrai aussi de sa poésie, puisqu'à un moment donné, il va avoir une dépression nerveuse et qu'il va arrêter de peindre et que pour compenser, il va écrire. Et on bute sur quelque chose de dur. On pourrait dire aussi qu'il a 2 ans de différence d'âge avec Picasso et qu'il a la même taille que lui. Donc ça, c'est quand
même... Il se ressemble beaucoup.
Il se ressemble et donc il y a cette chose dans le rapport aux femmes aussi qui est absolument passionnant. Enfin, avec Duchamp aussi. Chez les trois, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et donc, on a... Alors, un des éléments fondamentaux, c'est Picabia à New York en 1913, qui là aussi retourne, il est paradoxalement tout à fait, de façon invraisemblable, considéré comme l'artiste le plus avant-garde de son temps. Alors, c'est l'histoire de l'urinoir, hein, c'est à ce moment-là. Et donc, ils inventent vraiment Dada avant Zurich, ils inventent les attitudes Dada, c'est-à-dire un rapport nihiliste et de désacralisation à l'art extrêmement... virulent, tout en n'étant pas du tout spectaculaire, paradoxalement. En 1913 et aussi, les Américains considèrent que les Européens sont à la pointe de l'avant-garde de l'art, mais Picabia considère que c'est New York, c'est les mœurs, la vie de tous les jours, que c'est les ponts ferrés, que c'est les buildings, que c'est le jazz qui est à l'avant-garde, et leur façon d'être beaucoup, de se presser dans la rue, leur façon... leurs femmes, enfin tout est moderne chez eux, le côté physique, New York est l'art moderne, beaucoup plus que l'art moderne tel qu'il se pratique à Vienne ou au Bauhaus ou à Ostende, ou Dieu sait où, n'est-ce pas?
Ah oui, absolument, parce que c'est extraordinaire. Alors, Picabia de l'argent, alors il fait le voyage pour l'art Morichaud, qui est la grande exposition qui montre effectivement l'art contemporain de l'époque. L'art américain n'existe quasiment pas. Il y a bien sûr des artistes, mais enfin, il n'est pas en tête de proue de l'art de ce moment-là. Et donc, les artistes qui sont... C'est les cubistes, évidemment. C'est le cubisme qui triomphe. Et cet art Morichaud, c'est la présentation, entre autres choses, de toutes les avant-gardes et surtout du cubisme. Et vous avez raison de le dire, ce qui est extraordinaire, c'est pas Picasso qui est présent dans l'exposition. Ce n'est pas Picasso qui est finalement repéré par les Américains, mais Marcel Duchamp, le nu descendant un escalier de Marcel Duchamp. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, ce tableau, quand Picabia revient à Paris, il dit à Marcel Duchamp, tu sais, tu as fait un tabac, un succès de scandale, naturellement, parce qu'évidemment, tout le monde pensait que c'était à la fois... ce tableau est devenu une sorte... a été caricaturé, on pensait que c'était un incident dans une fabrique de tuiles, enfin, il y a eu énormément de... Mais donc, ça voulait dire quand même, malgré tout, qu'en négatif, c'était quand même ce tableau avait été repéré, et que finalement, l'avant-garde, déjà, d'une certaine manière, c'était pas Picasso. Pour les Américains, en tout cas, c'était Duchamp. Et donc, Duchamp arrive... Picabia revient à Paris et dit à Duchamp, chiant, tu sais. Voilà. Et donc, deux années après, en 1915, c'est là où il a essayé d'introduire la fameuse pissotière. Il n'est pas arrivé, d'ailleurs, mais enfin, bon. Deux ans après, il arrive à New York parce qu'avec cette aura d'artiste, au fond, de succès, de scandale de Marcel Duchamp. Et ce qui est drôle, c'est qu'on leur pose la question aux deux. Voilà, Picabia est à nouveau à New York avec Gabriel. Et on le dit, mais alors vraiment, c'est vous les inventeurs de l'art moderne, etc. Et eux, ils disent systématiquement, mais non, c'est vous. Vous ne voyez pas. Nous, on est le vieux monde. Nous, mais regardez, vous avez raison, vous avez dit. Hein, regardez la vie dans laquelle vous êtes. C'est vous qui allez inventer l'art moderne. Et ça, c'est évident qu'ils sont déjà c'est eux qui ont indexé et qui ont finalement inventé, on pourrait dire, contribué à inventer, en tout cas, la prééminence de l'art américain à partir de ce moment-là. Alors, il va falloir attendre quelques années. Il va falloir attendre le pop art américain pour que des gens disent « Ah ben, il y a un gars là-bas qui habite à New York, qui s'appelle Marcel Duchamp, et il essaie d'introduire une pissotière en 1915 dans un musée. Il est là, en fait, il est là. » Voilà. Et c'est Jasper Johns, Rauschenberg, tous ces gens-là qui sont allés chercher Marcel Duchamp et qui l'ont, d'une certaine manière, adoubé comme celui qui avait inventé contribuer à inventer l'art de notre temps, l'art contemporain, comme on dit, quoi. Vilain terme, mais en tout cas, voilà.
Et donc, pour revenir sur ce nu descendant l'escalier, donc son effet de choc vient du fait que le nu est un exercice académique et qu'un nu ne descend pas l'escalier. Je crois que c'est écrit dans le livre. C'est un article, un compte-rendu d'articles critiques. Donc
et surtout, on n'écrit pas, parce que...
Il y a du texte sur l'étoile, bien sûr. Et donc on a là quelque chose qui se joue en 1913, qui reviendra tout le temps dans Dada. L'art, c'est les mœurs, c'est pas l'objet. Et on aura chez Picabia toutes les transgressions possibles par rapport au support qui sont indépassables. Vous citez 25 personnes qui vous ont introduit, des artistes vivants, qui sont des artistes d'aujourd'hui, qui sont actifs aujourd'hui, qui ont différents âges, et qui, eux, étaient fans de Picabia, et qui vous ont poussé à travailler sur Picabia, en quelque sorte. Et effectivement, quand Picabia expose une toile avec seulement des signatures et des petites photos, ou une ficelle avec un bout de carton dessus, c'est bien... Là, c'est pas le regardeur qui fait l'œuvre d'art, c'est l'artiste. C'est l'existence de l'artiste. C'est-à-dire que quand Nerval promenait son écrevisse au jardin du Luxembourg en laisse, maintenant c'est une œuvre d'art. Tout le truc des incohérents, c'est Duchamp, on tombe sur Duchamp. Toutes les avant-gardes qui sont nées au 19e siècle ne considéraient que c'était du rebut ce qu'elles faisaient. C'était des plaisanteries, c'était des momeries, c'était des gags d'atelier. Et Dada en fait des œuvres d'art parce que l'intention compte plus que le résultat. C'est à peu près ça, l'histoire de Picabia.
Oui.
À tous les niveaux.
Ah oui, c'est-à-dire que vous avez raison de dire, Duchamp et Picabia, ils inventent le... ils sont pré-Dada, d'une certaine manière. Enfin, ils sont Dada, pour le dire, parce que je pense qu'évidemment...
Ils sont Dada, on peut le dire.
Et donc, c'est la seule, entre guillemets, étiquette, même si, alors, c'est là où c'est génial de voir Picabia, comment il a vu que que ça allait devenir très vite une étiquette. Parce que, évidemment, Breton s'empare de ça, profite du fait qu'il y ait une relation entre Tsara... Donc, Tsara et Picabia, puisque Tsara habite chez Picabia dans les années 20. Et donc, du Breton profite de ça et profite de cette complicité entre Picabia et Tsara pour effectivement... Mais tout de suite et très vite, Picabia voit que c'est un piège, que Dada allait devenir une sorte d'école, finalement, un genre, un style, etc. Et naturellement, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Breton était déjà en train d'inventer le surréalisme, à penser à une forme beaucoup plus structurée, beaucoup moins anarchiste, je le dis, j'emploie le terme à dessein. Il a voulu fossiliser un petit peu cette énergie créatrice, etc. Mais Picabia a tout de suite vu que Dada pouvait devenir déjà un genre, une école, et donc il a chié directement sur Dada. Il le dit d'ailleurs, il y a des textes incroyablement violents et drôles en même temps, bien sûr, parce qu'il y a vraiment, il y a de la virulence chez Picabia, mais il y a de la drôlerie, mais en même temps il y a de la virulence. Mais vraiment, il a dit non, c'est fini, Dada, etc. Donc il n'a pas arrêté de casser son joujou d'une certaine manière. Ça, c'est très très important pour comprendre l'esprit de Picabia.
Tout à fait, mais c'est des moments. Parce que c'est quand même fondamental quand il est dépressif, il est dans une clinique, et Tsara va le voir. Et il crée un lien réel à travers leurs écrits. Et c'est, c'est assez hallucinant parce qu'il faut voir ce que Tzara écrivait et ce que Picabia écrivait et publiait pour se rendre compte ce que c'est cette rencontre à travers leurs écrits. Enfin, c'est comme le cubisme, en fait, cette violence esthétique avec des mots et qui fait le... Et puis après, Tzara va habiter 2 ans dans son salon. C'est extraordinaire. Tzara va venir à Paris, il est hyper fauché, parasite, et il dort dans son canapé.
Absolument. Et oui, une relation même... très étrange entre Tzara et Picabia, avec des hauts et des bas, mais ça a toujours été, ça sera
c'est
toujours
avec
Picabia, avec tout le monde. Oui. Et mais ce qui est drôle, c'est que il y a une lettre de Picabia, je trouve, qui est magnifique à Tzara, où il parle de la neuneu. Et la neuneu, c'est la neurasthénie, évidemment, et c'est joli parce qu'il y a dada et puis il y a neuneu. Et au fond, c'est quand même les deux aspects très très importants. Et vous avez raison, quand il écrit, c'est quand il est au fond du trou et qu'il peut pas peindre. Et quand il est au fond du trou, il est quand même en Suisse. On appelle ça à l'époque la neurasthénie. Ça serait aujourd'hui effectivement quelque chose comme une manie dépressive ou enfin quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai pas voulu dans mon livre, en tout cas, rentrer dans cette sorte de nosologie psychiatrique. Moi, j'ai pris les termes. Je trouvais que la neuneu, c'était plus joli quand même et plus juste pour parler effectivement des accès extrêmes, enfin des accès dépressifs qui caractérisent toute sa vie finalement.
Alors, il y a un aspect où j'aurais aimé savoir plus de choses, mais je ne sais pas si vous avez testé, si vous avez essayé, si vous vous rendez compte des effets que ça produit, mais c'est avec l'opium.
Ah oui.
Comme Picabia prend de l'opium. Est-ce
énorme.
Que vous pouvez nous raconter le rapport de Picabia à l'opium?
Moi, je trouve que la question des produits, alors c'est un produit, l'opium, hein, c'est une drogue, mais c'est la question de la drogue, oui, pour le dire autrement, la question de la drogue est décisive dans l'œuvre, la pensée et la vie de Francis Picabia. Je crois qu'on ne peut pas comprendre, cette œuvre picturale, et même sans doute bien sûr écrite, mais ça, l'opium est très 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 présent. Et il n'y a pas que l'opium, il y a énormément de produits. En réalité, il a pris énormément de drogues. Non seulement il a pris des drogues, et l'opium étant la plus chic, on pourrait dire, de l'époque en tout cas, mais il a pris il y avait des cachets aussi. Donc j'ai jamais réussi à savoir quel était le nom, parce que je me suis renseigné, mais en tout cas il prenait des cachets, ça c'est sûr aussi. Donc ça veut dire des choses très très chimiques et ça me paraît évident, mais il prenait aussi des médicaments, ce qui fait qu'il y a une pharmacie, ce que j'appelle une pharmacie de Picabia, qui est énorme et qui est très très importante pour comprendre son œuvre. Il se dit d'ailleurs pharmacien du hasard à un moment donné. Il a vraiment la question du produit de la pharmacie est très très importante. Et moi, ça m'a évidemment fait penser à Platon, qui pensait que la peinture, c'était effectivement à la fois une drogue, c'était une drogue, oui, que c'était pas bien, que ça droguait les gens, que ça illusionnait les gens, enfin, que c'était une, oui, c'était une, l'opium, c'était pour Platon, l'opium de,
l'opium
en tout cas,
du peuple,
d'une certaine manière, la peinture. Et donc, il y a cette idée que la peinture, et il y a un poème de Francis Picabia où il donne la clé de cette affaire dont vous parlez. Il dit je suis à la fois, j'ai empoisonné la peinture et en même temps j'en suis le docteur. Alors ça, c'est le paradoxe magnifique de Francis Picabia, d'avoir mis la peinture vraiment dans un sale état, parce qu'il ne faut pas croire qu'il copiait l'impressionnisme, après il copiait à peu près tout, il a copié des revues de charme dans les années 40, pendant l'occupation, il était un grand plagiaire, alors, au sens de Lautréamont, au sens d'Isidore Ducasse, c'est vraiment sans doute l'artiste qui a le plus plagié, qui a pensé qu'il n'y avait pas d'originaux, qu'il n'y avait pas d'originalité, que tout était une copie, que le monde entier est une copie. C'est sans doute l'artiste qui l'a dit le mieux. Mais donc, il a empoisonné la peinture. Il a mis la peinture à sac, d'une certaine manière. Il est allé il l'a traîné dans les marigots, dans les tréfonds et en même temps, il en était le docteur. C'est-à-dire que toute sa vie, il a quand même défendu la peinture. À la différence de Duchamp, qui était sans doute un peu moins bon, manifestement, et qui lui a arrêté la peinture en 1923, et puis finalement, il a arrêté, il a inventé tout à fait autre chose. Alors que Picabia a résisté dans la question de la peinture. Il a fait de la peinture toute sa vie. Et je crois que cette idée, cette pharmacologie, au fond, parce que la peinture, c'est aussi que Duchamp disait qu'il était intoxiqué, qu'il ne voulait pas être intoxiqué par la térébenthine. Il y a une idée d'intoxication. Enfin, je veux dire, la peinture, c'est un produit Quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, un artiste allemand qui est mort maintenant, Sigmar Polke, utilisait des choses dangereuses. Il voulait que la peinture soit dangereuse. Je crois qu'un des premiers à avoir imaginé que la peinture pouvait produire un effet, c'est Francis Picabia. Et donc, il y a un rapport à la drogue, évident, et aux produits, et aux médicaments. Donc, Platon disait, parlait de pharmacone. Le pharmacone, c'est à la fois la drogue et le poison et le médicament. C'est-à-dire qu'il y a cette ambiguïté qui est au cœur, effectivement, de la pensée de la peinture de Francis Picabia.
Il y a quelque chose qui n'est pas clair chez Picabia. Pour moi, c'est ce rapport à la théorie. C'est-à-dire que quand on voit Duchamp, pour prendre un exemple, on a l'impression qu'il maîtrise ces jeux de mots, évidemment, enfin, qui maîtrise ce qui fait ses allusions, la profondeur. Mais quand un type, par exemple, dans sa correspondance sentimentale, détourne Nietzsche pour écrire à sa maîtresse, on ne comprend pas ce qu'il fait. Il a une carapace caractérielle au sens de Wilhelm Reich. Il n'a pas d'inconscient, il n'a pas de moi. C'est pas quelqu'un qui joue avec ça. C'est pas quand Guy Debord cite les Tréamont sur le plagiat, on comprend, c'est une posture. En fait, il reprend les positions de Breton en les appelant autrement et en leur donnant un versant beaucoup plus rationnel, en chassant la part d'irrationnel. On comprend bien, on peut démonter le réveil, le remonter et s'en servir. Avec Picabia, on peut pas. C'est bien aussi pour ça que je posais la question de l'opium. Il est d'une profondeur abyssale. C'est très dur, par exemple, de lire ses poésies dans le sens où enfin, il y a un geste, chaque fois qu'il y a un geste, quand c'est un dessin avec un texte sur le dessin, on comprend tout de suite. Il est très bon, il est pop. Il est très bon sur la communication, c'est maîtrisé. Mais on ne voit pas son inconscient. Et je pensais aussi, c'est une parenthèse, son rapport avec Picasso, la grosse différence qu'ils ont, c'est l'argent, justement. Et ça pourrait être un bon moteur. On pourrait faire un Picabia Picasso en prenant comme outil l'argent, comme on peut faire avec Breton sur le sexe. Quand Breton ou Minot, ils sont à Barcelone, ils vont au bordel, et Breton lui fait un caca nerveux, il devient fou, il veut pas, Madame Breton proteste, parce que ça lui fait du mal, on n'en revient pas, enfin, c'est absolument inouï. Mais je suis quand même très frappé, enfin, c'est une question que je voudrais vous poser, est-ce que vous voyez la subjectivité de on devient ami avec Duchamp quand on bosse sur Duchamp. Est-ce que vous voyez Picabia, vous qui l'avez beaucoup fréquenté, est-ce que vous passez des soirées au bar avec Picabia?
Quand même, oui, quand même. C'est très juste tout ce que vous dites là sur la question de l'inconscient. C'est évidemment, waouh, oui, il est en prise avec, oui. Mais ça, c'est tous les artistes d'une certaine manière. Ils sont en prise. L'inconscient est mon ami, disait Louise Bourgeois. C'est pour le dire autrement, il n'y a pas de théorie de l'inconscient chez Picabia. Vous avez totalement raison, il est en prise directe avec la chose. Là, il y a plus de distance, évidemment, chez Marcel Duchamp. Lui-même qui n'avait pas besoin de
enfin, qui n'avait pas de rapport à la psychanalyse. Cette distance, on le reproche, on voit ses faiblesses, on voit sa façon... Alors, il y a encore la question de l'argent, là aussi, oui. Moi, je suis très, très fan de Duchamp sur la question des frais fixes. Ouais. Quand Tinguely va le voir à New York et que son loyer est de 40 dollars par mois, Tinguely qui vient dessus, c'est quand même très, très impressionné. Et puis le côté des merdes, quoi, de Duchamp.
Mais il ne dépend de rien. Marcel Duchamp ne dépend de rien. Il se dépend de tout. Alors que Picabia est en prise avec tout. Alors ça, c'est vraiment les deux opposés absolus. Il y en a un qui doit... Il a de l'argent. Il a de l'argent. Duchamp n'en a pas. Et surtout, il n'en a pas besoin, au fond. Il a fait toute une vie, Marcel Duchamp, pour ne dépendre de rien. Ouais. Pas de famille, pas d'enfant, même s'il en a eu. Mais personne ne lui a dit qu'il en avait, d'ailleurs.
Il ne s'en occupe pas. Il n'est pas dans la filiation.
Voilà. Et pas de rapport avec l'art, au fond. Il ne faut jamais oublier que Duchamp, il voulait en finir avec l'art. Alors, il a été un peu rattrapé à la fin de sa vie par les marchands, etc. Mais enfin, il a quand même, la plupart du temps, il s'est dépris de l'art. Et ça, c'est quand même magnifique. Alors que Francis Picabia, et c'est son, c'est ce qui est difficile, mais en même temps, il est en prise avec tout, les femmes, la drogue, l'argent, l'art, la peinture, les emmerdements, la famille, les voitures, 125 voitures, donc c'est extraordinaire de voir que ces deux figures qui sont complices quand même, comment elles sont si différentes.
On peut imaginer. Ce qui les lie, c'est un certain nihilisme. Et alors, quel est l'apport de Germaine ?
Ah, Germaine.
C'est la maîtresse.
La deuxième.
La deuxième.
La deuxième, Germaine, elle a écrit un joli livre, déjà, qui nous permet de voir le Marcel Duchamp des années, justement, les années 20, des années, justement, qui nous raconte l'histoire avec André Breton, quand ils sont allés à Barcelone et qu'ils sont revenus de Barcelone, ils sont passés par Marseille, qu'ils ont vu l'exposition coloniale, et qu'il y a eu cet épisode que vous avez tout avec justesse rappelé, parce que c'est très important de voir le côté puritain, quand même, incroyable d'André Breton. Et là, il a été pris en flagrant délit de puritanisme. Et c'est magnifique, la relation. Au fond, vous parliez aussi de Picasso. Et ces trois-là, au fond, c'est les trois artistes, finalement, que André Breton a adoré, mais qu'il n'a pas pu exclure, et pour cause, puisqu'il n'avait jamais adhéré, au fond. C'est les trois artistes, Picasso, Duchamp, Picabia, c'est les trois artistes phares pour André Breton, mais qui n'ont jamais adhéré au surréalisme. Mais ça, je crois que c'est pas un hasard, quoi. Parce que, comme disait Duchamp, on peut pas m'exclure, puisque j'ai jamais adhéré, quoi.
Oui, non, c'est clair que il ne gère pas, aucun des trois ne gère, et ont une forte capacité à dire non. C'est vraiment chacun à sa façon.
Voilà.
Et puis il y a Olga, alors c'est la troisième.
Olga, c'est...
Donc vous avez lu son manuscrit inédit.
Absolument, oui, c'est important. C'est dommage qu'il ne soit pas éditable, peut-être, parce qu'il est assez mal foutu, mais il est très, très intéressant. Et c'est la dernière personne, c'est Olga, c'est la nurse au début. Au départ, mais enfin,
qu'il a un fils avec Germaine, et elle est engagée, il a quoi, 12 ans ?
Oui, oui.
Elle est engagée pour s'occuper.
Oui.
Et donc, comme elle est sous la main de Picabia, il ne peut pas résister. Elle deviendra sa dernière épouse.
Oui, absolument, c'est sa dernière épouse. C'est une femme importante qui a eu des problèmes parce qu'elle était suisse-allemande, alors elle a eu des problèmes.
Elle s'est traitée de boche pendant la guerre.
Voilà, oui. Donc, elle a eu des gros problèmes. Et en même temps, évidemment, Picabia, qui superposait ses relations amoureuses. C'est là où il est très différent de Duchamp, qui lui avait séparé tous ses dossiers amoureux.
Et très différent de Picasso aussi.
Et très différent de Picasso, qui prend une femme après l'autre. Alors, ce qui est magnifique, et pour moi, c'est la clé pour comprendre ce qu'on appelle les transparences chez Picabia, c'est-à-dire cette superposition de sujets, etc. C'est exactement ce qu'il vivait dans sa vie. Il ne se débarrassait pas de quelqu'un. Il voulait que tout soit en même temps. Enfin, c'était pas un macronien pour autant, mais c'est simplement je raconte des moments où il y a trois ou quatre femmes qui se superposent en même temps dans la même situation. Ça, c'est...
On peut dire que c'était un homme à femme, ce qu'on ne penserait jamais de Picasso ni de Duchamp. Il a un côté macro presque. Il va
son côté rastaquaire.
Ouais, il va à B, B, les Salines de B, c'est un petit bled en Suisse qui était célèbre pour les soins, pour les gens qui étaient nerveux et tout. Et c'est marrant parce que Nietzsche, il y va avec Paul Ray 50 ans avant. Il va à B et il a une femme, ils ont des chambres individuelles. Il y a Germaine à gauche et Gabriel à droite et sa chambre est au milieu. C'est un potentat, c'est-à-dire. Tandis que Picasso, il les mange, il les dévore, il les... si on lit le dernier livre à charge qui a été publié contre Picasso... Et c'est un ogre, là, comme il est décrit.
Oui.
Tandis que Picabia, c'est très différent. Hein. C'est
oui,
il a un bon rapport aux femmes, en fait.
Oui,
les femmes, là, mais c'est un salaud, Mais c'est le salaud sympathique, c'est comme ça.
Oui,
c'est un macro.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, la question, c'est un macro, la question de la prostitution, d'ailleurs, c'est la prostitution universelle, c'est un des titres de ces tableaux, et je trouve qu'effectivement, il y a un rapport prostitutionnel. Mais de toute façon, la peinture est une putain aussi pour...
Il fait des Espagnols typiques, etc.
Il y a vraiment cette relation. Très importante.
Non, en plus, il y a beaucoup de ces peintures qui auraient pu figurer dans les bordels quand il y avait des peintures au mur dans les bordels.
Absolument. C'est très très important. Et bien, cette période entre 39 et 45 est particulière.
On va écouter un petit morceau de musique. Et donc, on vient d'entendre Benny Goodman, mais c'est du jazz des années 30, et j'étais très impressionné en lisant votre livre par le moment où Picabia fait de l'animation dans les palaces. Vous nous racontez ça, alors, je n'arrive pas à le mettre dans le... Je ne sais pas quoi en penser, quoi. Est-ce que vous pouvez nous le raconter?
Ah oui, c'est très important. Hein. C'est pour gagner des sous, hein. Parce que...
Mais quoi, à la fin des années 30?
Dans les années 30, oui. C'est dans les années 30, avant la guerre. À Nice, bon, il habite sur la Côte d'Azur. C'est là où d'ailleurs il y a une relation importante avec Picasso. Ils se regardent, hein. Ce sont des artistes qui se regardent. Autant Duchamp, il n'y avait aucune relation avec Picasso, autant Picabia, oui. Puis Picabia se prenait pour un Espagnol, ce qu'il était à moitié quand même. Et donc voilà, il avait ce tropisme espagnol. Et donc, les historiens de l'art sont d'accord pour dire que les fameux baisers de Picasso viennent de Picabia. Donc, faut pas croire que voilà, il y a une influence importante. Moi, je suis pas cuistre là-dessus. je m'en fiche un petit peu, mais c'est assez intéressant de voir ces deux qui se ressemblaient très fort, et qui adoraient être en maillot de bain. Hein, ça, c'est vraiment, c'est pour ça que mon chapitre s'appelle Picabia et Picasso on the Beach. C'est la plage, cet hédonisme, voilà, même pour quelqu'un qui est dépressif, il y a ce jeu entre le soleil et le soleil noir, quoi. Hein, c'est le soleil noir déjà. Et d'ailleurs, les deux sont là-dedans. Le soleil noir, c'est pas voilà, ce qui est solaire n'est pas forcément un enchantement absolu. Et donc, pour gagner, comme il a dilapidé, qu'il a besoin d'argent, il a dilapidé, je sais pas combien de fois, c'est la fortune de ses parents, sa propre fortune avec la peinture. Et donc, il avait besoin de chaque fois pour acheter ses voitures et puis pour ses yachts, il avait besoin d'argent et donc il faisait des soirées incroyables, des soirées aux ambassadeurs, donc à Nice. Dans un hôtel, dans plusieurs hôtels, et donc ça fait partie de ces.
Des soirées thématiques, les gens viennent déguisés.
Absolument, il y avait une soirée tatouage, il y avait une soirée.
C'est le sommet du kitsch, en fait.
Oui, total. Oui, non, mais c'est vraiment la Côte d'Azur.
Quoi. Et du fric, et des comtesses, oui. Russes blancs.
Oui, moi je suis allé regarder tous les journaux de l'époque, c'est extraordinaire de voir la liste, parce qu'en fait.
Parce qu'on peut avoir une soirée, un exemple de soirée, le thème de la soirée.
Bah oui, par exemple, c'est cannibale, une soirée cannibale.
Alors, donc ils viennent à poil avec un os. Ouais,
aujourd'hui, ça serait vraiment interdit. Voilà, dans le genre. Non, c'est très, très, très les soirées cannibales, les soirées en pyjama, les soirées nautiques, avec
l'Antiquité grecque, romaine.
Absolument, tout, les soirées apaches. C'est des soirées pour la haute bourgeoisie, l'aristocratie locale, les fameux hivernants, parce qu'en fait, ils passaient leur hiver là-bas. Toute l'aristocratie, la haute bourgeoisie, passait ses hivers sur la Côte d'Azur. Et donc, Picabia adorait faire ça. Alors, adorait, je ne sais pas. S'il adorait.
Ça pouvait être humiliant, peut-être, pour lui, mais on ne sait pas.
On ne sait pas. Moi, là-dessus, je ne me prononce pas là-dessus, mais en tout cas il le faisait, il aimait le musical, il a toujours aimé le musical, il traînait rue Sainte-Anne avec Suzy Poli, comment elle s'appelle,
oui, il est à côté cabaret,
le cabaret,
c'est très important, il jouait d'ailleurs sa peinture, si on va voir une exposition de Picabia, on peut penser au cabaret aussi.
Ah oui, il y a une dimension cabaret totale,
le flamenco, les gitanes,
oui, tout ça, oui, alors ça c'est tout à fait, c'est vraiment l'intensité dans laquelle il est. Donc ça ne, je pense que ça ne lui déplaisait pas d'organiser des fêtes. Alors, il y a une fameuse photo, il est en nurse, par exemple. Donc, là, les déguisements, il y a un rapport quand même assez festif, oui. Il y a une dimension festive, mais comme toujours, la fête est un peu triste, hein, quand même. Hein. On sent quand même qu'il y a quelque chose.
Pour nous, on est exclu. Il faut du sang bleu. Voilà. On peut pas y aller.
Non, il y a ça. Il y a ça.
Puis et donc, la Côte d'Azur, il faut aussi. C'est pas facile. Hein. J'ai passé 6 mois à Nice, par exemple, et avec des junkies dans la rue et des vieilles personnes. Ça n'a pas beaucoup bougé. En hiver, donc. Hein.
Ouais.
En hiver à Nice. Ouais, c'est. Ça me fait penser à Harald Zeman, qui a inventé l'art contemporain, et à son exposition sur Monte Verita, ce culte du corps. Quand même, quand on voit Picasso, comme il est tellement vieux quand il est avec Françoise Giraud, et qu'on voit les photos à la plage, comme il est beau. Putain, c'est un corps d'un mec qui va vers les 80 ans. Là.
Ouais, c'est magnifique.
Et c'est des types, ils ont le même maillot de bain. Voilà. Et Picabia, il vit sur des bateaux.
Oui, parce qu'à un moment donné, il préfère vivre sur le yacht.
C'est Isadora Duncan et tout ça. Enfin, c'est revendication de nudisme, de corporel. Enfin, c'est quand même quelque chose. Ça fait partie de l'histoire des avant-gardes.
Absolument.
Et le soleil, enfin, toute l'arrivée du soleil au XXe siècle, enfin, toute une.
Oui, d'ailleurs, les revues de charme, quelques années après, donc entre 39 et 45, donc pendant les années dites de l'occupation en France, ouais, qui ne sont pas dites d'ailleurs, qui sont les années de l'occupation, c'est là où il fait cette série, on pourrait dire cette peinture de bandelle, un peu, d'une certaine manière, peinture de charme, qui, d'après des revues, les revues de charme de l'époque, qui sont en fait, qui montrent bien cette indication. Et ce sont d'ailleurs, on s'aperçoit que les photographes qui étaient dans ces revues de charme, photographies de nus, c'était des gens d'avant-garde. Donc c'était tous des gens justement qui venaient du Bauhaus, qui avaient été donc les points de vue photographiques qui sont dans ces revues sont très très intéressants. Et ça il l'a bien sûr vu, mais il les a donc copiés, il les a peints. Il a peint en mélangeant souvent plusieurs sujets en même temps, plusieurs sources de ces revues en même temps. Mais donc il a pris l'énergie au fond moderne du point de vue du point de vue de la photographie d'avant-garde, et en même temps il a fait ça dans une peinture horrible, quoi, d'une certaine manière. Et quand les gens ont dit oui non cette période est horrible de Francis Picabia, parce que ça, il a eu une mauvaise presse à une certaine époque, Francis Picabia, non c'est de la peinture pétainiste, c'est de la peinture nazie, même nazie porno nazie, et je pense que les gens ils ont des problèmes avec leurs yeux, parce que quand on regarde cette peinture on voit que ça n'a rien à voir avec l'esthétique nazie, ni l'esthétique du maréchal Pétain. C'est vraiment un saccage de la peinture, c'est très très mal foutu, il y a une volonté vraiment, encore une fois, de mettre la peinture dans un sale état. Et donc, mais il faut regarder ça n'a rien à voir avec l'esthétique léchée du national-socialisme, ou même de l'ingrisme même, de l'époque des années 30.
Il ne fait pas de la peinture, en fait, il utilise les moyens de la photo, il fait des éclairages indirects, etc. Mais enfin, c'est vrai, du Caravage, mais...
Oui.
Il y a un aspect de Picabia qui peut réconcilier avec l'art, c'est Relâche, c'est le film qu'il fait. Évidemment, il y a l'apport de René Clair.
Et
la musique de Satie, donc c'est un miracle. Mais c'est tellement beau, c'est tellement dans le genre burlesque, c'est tellement juste et vrai. Quand on voit ça, on est sidéré. Et cet aspect très habité, là, justement, c'est une œuvre qui est très, très habitée, manque dans sa peinture. Mais là, elle est évidente. Alors évidemment, il y a René Clair, il y a aussi toute l'histoire des ballets à cette époque. Enfin,
Borlin, les ballets suédois.
Voilà, et puis il y a en parallèle Stravinsky, Picasso, enfin on est dans le cinéma, enfin il y a tout là. Mais il y a une joie quand même dans le...
Et il y a Marcel Duchamp.
À poil. Enfin, toutes les transgressions qui sont vraiment formidables. Enfin, c'est une danseuse à barbe vue d'en dessous. Et puis même le rythme, la saccade, elle est tellement juste, le truc du cercueil avec le chameau, la poursuite, enfin, ça m'a toujours semblé une réussite absolue, exceptionnelle.
C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Et la soirée était un chef-d'œuvre, hein, parce qu'il y avait donc les ballets, il y avait la mise en scène de Picabia avec des réflecteurs de voiture, évidemment. Là aussi, ça devait être. C'était de l'opart avant la lettre, mais bon. Il y avait donc le film en entr'acte, qui est quand même le scénario était fait quand même par Picabia. C'est René Clair était le réalisateur, mais qui est exceptionnel, dans lequel on voit Man Ray, Duchamp en train de jouer aux échecs, Picabia arrosant, c'est la scène inaugurale du film, arrosant la scène de les deux joueurs d'échecs, enfin la fin du film, enfin cette sorte de course-poursuite avec le corbillard, c'est le grand film Dada, hein. Il y a rien à dire là-dessus. Il faut le qualifier comme tel. Et ensuite, il y a eu ces ciné-sketchs Duchamp et Bronia Perlmutter, qui est devenue d'ailleurs la femme de René Clair, justement à l'occasion de ce tableau vivant, rejoue un tableau de Cranard, de Lucas Cranard, Adam et Ève. Et donc, c'est assez joli de voir effectivement Marcel Duchamp dans le simple appareil.
Il y a aussi, si on prend les couvertures de littérature, par exemple, qu'il a fait, ou 391, le côté mécanique dans le dessin, tout le côté... C'est peut-être là qu'il y a le plus de vérité, c'est dans le sens du futurisme en général, quoi, de plus de vérité de Picabia, dans un réel engouement pour une ampoule, enfin un des objets comme ça, aérodynamiques, des objets contemporains, qu'il arrive à sublimer. Quand il appelle une tache d'encre et qu'il dit que c'est la Vierge Marie, ça marche aussi parce qu'il a, il y a des moteurs en parallèle, hein, c'est ça, non?
Ah oui, mais ça c'est vraiment la grande... Alors c'est la période qui a été, qui était toujours sauvée de Francis Picabia. La période vraiment dada, la période mécanomorphe, on appelle ça la période mécanomorphe. C'est là où vraiment il y a un jeu très, très intéressant entre Marcel Duchamp et lui. Pas du tout avec la même méthode, puisque Duchamp va prendre vraiment des objets, il va vraiment inventer le ready-made, alors que Picabia, ça reste graphique. Et c'est d'après des schémas, encore une fois, c'est d'après des schémas qui trouvent dans des revues de vulgarisation scientifique, et donc qui deviennent, donc ces schémas d'un carburateur, d'une lampe, etc., deviennent des portraits. Et il fait les portraits de toute la scène dada et new-yorkaise et barcelonaise, parce que effectivement sa revue 391 est à cheval entre trois pays, New York, Barcelone et Paris. C'est vraiment la grande période, celle qui a été toujours saluée. On a toujours dit la contribution de Picabia. Mais ce qui, moi, et donc, elle est décisive, bien sûr.
Il y a un moment de grâce quand même, non ?
Oui, totalement. C'est évident. C'est évident que cette période mécanomorphe est exceptionnelle. Mais je pense que les autres périodes sont très, très, très passionnantes aussi. Et aujourd'hui, on en est et ce sont les artistes. Et vous avez commencé en disant pourquoi j'ai fait cette biographie. C'est sans doute à cause de ma relation avec les artistes d'aujourd'hui. Je pense que ce sont des artistes qui m'ont mis la puce à l'oreille d'une certaine manière sur Picabia, mais justement l'ensemble de Picabia, parce que c'est un peu, j'aurais été un peu trop facile de dire il y aurait un bon Picabia, un peu comme on dit un bon Malevitch chez l'époque du suprématisme. Après, quand il devient à la figuration, c'est pas un bon Malevitch. Mais non, il faut vraiment prendre. Et maintenant, je sais qu'on doit prendre vraiment Picabia dans tous ses états. Et il est intéressant dans tous ses états. Mais ce qui, moi, m'a toujours intéressé, c'est que bien sûr qu'un quelqu'un comme Kippenberger ou comme Zygmunt Polke adore Picabia, ou c'est normal. Mais que quelqu'un comme Daniel Buren ou Niel Toroni préfère Picabia à Duchamp, c'est quand même, il fallait que je me demande pourquoi. Voilà, parce que étrangement, les gens qui n'ont fait qu'un seul geste, comme Buren ou Toroni, un seul geste, hein, des empreintes ou des bandes alternées, eh bien pourtant c'est quand même Picabia, il préfère cette liberté-là. En dépit de tous les doutes politiques, tout ce qu'on veut, etc., Picabia reste pour eux finalement l'exemple d'une liberté incroyable. Et ça m'a toujours étonné.
Donc ce qui est valable dans sa peinture, c'est l'exercice de sa liberté.
Absolument. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'un quelqu'un comme... Enfin, que pour les jeunes artistes, d'une certaine manière, beaucoup plus de Duchamp que Duchamp, étrangement. Mais j'ai remarqué ça, moi j'adore Duchamp. Hein. Mais Duchamp, il a fini par être une sorte de docteur un peu en... Parce qu'il a tout fait très très bien, il a été radical comme il faut. Alors que l'autre est un peu plus voyou, sans doute. Et un peu... et il y a
donc
des trucs
qui
dépassent.
Pour Toroni, le côté voyou, ça doit marcher. J'ai mal avec Buren, mais Toroni, ça doit marcher. Mais... Et donc à la fin, il fait une espèce de peinture abstraite qui semble des points, qui semble sarcastique. On est en plein École de Paris. Il y a des, je sais pas, Hartung, Messager.
Mais Soulages a connu soi-disant Picabia. Enfin, j'espère que. J'ai oublié de lui demander, mais en tout cas, il dit qu'il a connu Picabia.
Et donc, vous pouvez parler de ces
points. Oui, bah, j'aime beaucoup les points, là. Les fameux points.
Alors, c'est quoi, comment est-ce qu'on peut le décrire? De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il y a sur la toile?
Alors, ce qu'il y a sur la toile, il y a une sorte de magma, le fond, c'est une sorte de magma matiéreux. Donc, on pourrait presque dire que c'est le matiérisme de l'époque, hein, parce qu'il y a vraiment une idée matiéreuse, comme ça. Mais au milieu de ce magma matiéreux, de ce fond, il a mis des sortes, oui, de cette croûte, oui, exactement, hein. Il a mis des petits points de couleur pure, hein, et qui sont comme une constellation extraordinaire. Ça, des gens comme John Armleder adorent, évidemment, ou Olivier Mossé, sont des gens qui, tout de suite, ces œuvres de la fin ont produit, sont admirés par un certain type d'artistes comme ça, comme Arm Leder ou même Mike Ely, évidemment. Mike Ely qui lui-même m'avait indiqué à l'époque, avant de mourir, qu'il prenait l'ensemble de Picabiai, qu'il n'était pas du tout un post-moderne, comme on a voulu le faire passer pour un post-moderne. Picabiai, vous aimez le retour à la figure, tout ça, il n'y a pas ça chez... Parce que, et ça c'est la thèse de Mike Ely, je la trouve très très juste, il m'a dit, et il a même écrit, dans le modernisme, Picabia est profondément moderne, mais dans le modernisme il y a une dimension mélancolique, et c'est lui qui la porte. Bon, Duchamp d'une certaine manière aussi, mais lui de manière exemplaire. Il faut arrêter de penser que la mélancolie c'est une valeur postmoderne. C'est une valeur qui est inscrite au cœur du modernisme. Et on ne peut pas comprendre même Dadas et Tsara, par exemple, sans une forme de mélancolie. La fameuse neuneu, elle est là, elle est au cœur du projet moderne. Et ça, je crois que c'est un des enjeux très 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 importants de l'œuvre. C'est pour ça qu'il faut prendre l'ensemble de l'œuvre de Picabia pour voir cette dimension. À la fois moderne et mélancolique.
Oui, c'est le côté spécifique de Dada, ils n'ont plus d'idéaux transcendants, ils n'ont plus une vision sublimée de l'art, de l'œuvre, de l'artiste. Ils sont passés au-delà et ça rend effectivement mélancolique. C'est une position de survie de haut mur.
Et quand on voit, de toute façon, bon là, on peut pas parler bon breton, peut-être sans doute le moins mélancolique, mais enfin quelqu'un comme Debord, c'est
on peut dire que c'est un grand mélancolique.
C'est du pur mélancolique, d'ailleurs.
Absolument. Et c'est pas une pose là. Il y a des aspects pose, mais pas cet aspect-là. Et donc, et ça fait de la différence entre lui et les autres.
Ah oui, absolument.
Il jette tous les autres qui fréquentent parce que. Et ça commence très tôt, c'est très marquant. Par exemple, il reprend Constant, ils ont entre 25 et 30 ans, et il reprend Constant parce que Constant a utilisé un terme comme gaieté, ou il lui interdit, donc il réécrit tout. Donc c'est un autoritaire, comme Breton.
Oui.
Et donc Constant n'a pas le droit de mettre que tel ensemble architectural serait l'espace de la gaieté. Ça ouais. N'existe pas.
Oui,
c'est interdit.
Oui, je pense que. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison de dire que Breton et Debord, c'est la même lignée. D'ailleurs.
Il avait un Oedipe très violent avec Breton. Il était
très
dénégation.
Oui, en même temps, il a cherché vers la fin de sa vie. J'ai des exemples. Il allait voir chez Destribats, qui avait les originaux d'André Breton. Et là, il était en admiration devant les originaux.
Alors, Breton dit, à propos de la dérive situationniste, ils ont renommé ce que nous appelions la promenade.
Oui, bien sûr.
Et c'est juste.
C'est juste.
Et donc, bon, c'est invendable, parce que ça fait un petit peu rabat-joie, mais c'est juste. Alors, évidemment, il y a l'arrivée chez Debord des sciences humaines, il y a le côté...
Lefèvre,
bien sûr. Alors, et puis le côté marxiste aussi. Ouais. Breton, il n'y touche pas. Il est à côté, mais il est en parallèle. Tandis que Debord, il est dedans. Il est plongé dedans. Mais, oui, Lefèvre et puis tout le côté statistique, sciences humaines, plan... Enfin, c'est Lefèvre. Absolument. Mais donc...
Oui, donc que le modernisme et la mélancolie ne sont pas incompatibles, parce qu'on on pense toujours que le modernisme, c'est un peu, on a une vision un peu le Corbusier là-dessus du modernisme, et je pense qu'il n'y a pas que le Corbusier.
Et c'est puritain, le puritain et fasciste. Là.
Voilà, absolument.
Comment il s'appelle ? François Chalin est venu ici, et il a quand même fait une démonstration formidable, il a fait un chef-d'œuvre sur le Corbusier.
Évidemment.
Et donc, c'était vraiment un antisémite puritain facho. Et puis, donc, alors là, c'est compliqué parce que le Corbusier met le stade de sport au milieu de la ville.
Ah, oui.
Ça, c'est le côté fasciste. Donc, sur ce retour du corps, c'est pas le corps de Picasso ou le corps de Picabia, celui-là.
Non.
Ça, c'est vraiment pas ça du tout. Hein.
C'est le modulor, hein. Ouais. Ça fait peur, hein, le modulor.
Absolument. Oui. Et puis, vraiment, ce côté. Une vie sainte, quoi. Enfin, c'est une espèce de c'est protestant, mais dans une version calviniste assez dirigiste, quand même.
Oui, très fort. Hein.
Alors là, les autres, c'est des latins, ils sont tout à fait opposés.
Alors là, vraiment, avec Picabia, on est dans l'impureté, surtout. Moi, je trouve que le mot le plus... Et je trouve que c'est beau qu'il soit toujours gardé d'une forme de pureté. Je pense qu'il a senti chez Breton qu'il était un puritain, donc, et qu'il a senti dans le surréalisme que c'était une manière de purifier Dada, de lui donner ses lettres de noblesse, finalement. Et je pense qu'il a voulu garder... Et Duchamp était de la même...
La même école
là-dessus. La dimension impure, profondément impure, et ça, c'est... On peut être radical et impur. Hein.
Il y a peut-être à côté du buffet, mais je suis pas. C'est vous qui le savez. C'est quand il aménage cette maison, à 40 km de Paris là.
C'est drôle.
Dublette là.
Oui. Il y a un petit Moldre, côté. Trembler sur Moldre.
À trembler. Il y a un petit côté du buffet, j'ai trouvé, parce que du buffet faisait aussi des choses comme ça, des aménagements invraisemblables et un côté. Salon, enfin des choses qui vont pas ensemble, enfin un univers un peu décalé comme ça, et il y a un certain plaisir qu'on trouve pas dans ses autres activités. Il a un plaisir dans le réel, en fait.
Oui, puis il a le jardinage, il plante des arbres, il adore les volières d'oiseaux.
Il a des ateliers dans lesquels il bricole.
Oui, absolument, oui.
Il a tout son rapport aux animaux.
On a
le parallèle avec Picasso, très fort.
Il y a une ménagerie, où il y a une ménagerie Picabia aussi.
À un moment, il a beaucoup de... À la Léoto, là. Plusieurs dizaines d'animaux domestiques en même temps.
Il y a tout. En fait, c'est l'homme du plus. Autant Duchamp, lui, réduit les frais, comme c'est vraiment l'économie du champion.
C'est bien comme idée, oui, c'est l'homme du plus.
Ah oui, mais lui, c'est toujours plus, quoi.
Duchamp, c'est une deux chevaux.
Et l'autre, c'est
ce qu'il y a de mieux en voiture.
Duchamp a eu une voiture à la fin, et c'est pas lui qui conduisait, c'était sa femme. Et il l'appelait, c'était une Volkswagen, et il l'appelait Faux Vagin. Il a fait d'ailleurs une œuvre Faux Vagin, ce qui est magnifique. Mais c'est Duchamp, évidemment. Ah, c'est une magnifique voiture, alors que l'autre en a eu 125, quoi. C'est magnifique. Le rapport est extraordinaire. Et pourtant, ce sont deux. Ils forment un couple magnifique. Voilà, absolument.
Oui, c'est dans votre Duchamp que j'ai lu que Cage faisait des scènes de jalousie à Duchamp dans son rapport avec Dali.
Ah oui.
Et donc, on a cette dimension. J'ai pensé, en voyant Arnaud Labelle-Rogeau qui venait parler ici de Duchamp, je me suis dit qu'il aurait mieux fait d'écrire le Dali, que ça lui aurait convenu mieux. Et encore ce rapport avec Dali.
Ah, c'est fort, oui.
On n'en a pas... Enfin,
mais ça, c'est Duchamp.
On devrait parler tout.
C'est qui est génial, c'est Duchamp.
Mais avec Picabia et Dali, ça serait...
Oui. Mais pourtant, il n'y a pas eu connexion. Il y a eu connexion. Il est trop jeune, je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, Duchamp est resté fidèle à Dali toute sa vie, jusqu'au bout.
Sous le côté provocateur.
Et contre Breton. Breton lui demandait d'organiser des expositions surréalistes à New York, ce que faisait Duchamp pour gagner de l'argent, parce que lui, il gagnait un peu d'argent en faisant ses expos surréalistes. Et il a imposé un énorme Dali, alors que Dali était devenu était honni par André Breton, qui le faisait passer pour un fasciste, un hitlero, je ne sais pas quoi, etc. Et donc, mais Duchamp a résisté. Et il voyait tous les étés, puisque les 20 dernières années de sa vie, il allait à Cadaquès, puisque Tini Duchamp, sa femme, adorait le soleil. Lui, au contraire, en bon normand, il se protégeait du soleil. Mais il était très, très gentil. Mais tous les ans, ils allaient voir Salvador Dali et ils s'adoraient. Enfin, il y a vraiment une relation très, 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 très forte entre ces deux-là. Ce qui est quand même très, très, très étrange.
Ah, c'est très, très étrange. À part le côté provoque, quand même. Et là, on a chez Dali, Pop, le Dali des vitrines. Parce qu'il y a quand même... Je ne sais pas si c'est Germaine ou Gabriel qui raconte l'anecdote à New York, c'est Gabriel, sur la vitrine avec un pneu dedans.
Ah oui, ça c'est Gabriel, bien sûr. Ouais.
On pense à Dali aussi. Après, ça sera le pneu et Dali dans la vitrine.
Oui. Alors, c'est étrange parce qu'ils ne se sont pas connus. C'est étrange, hein. Ils ne se sont pas connus. Tu vois, Picabia a connu Cocteau, a connu bien sûr Picasso, mais il n'y a pas de relation, étrangement, en dépit de son hispanophilie absolue, en dépit de ça, fait qu'il était même traîné beaucoup à Barcelone. Il n'y a pas de relation avec Buñuel, étrangement non plus.
Il y a Apollinaire, on aurait pu parler de...
Apollinaire, ça c'est très important.
Picasso, Apollinaire, Picabia, Apollinaire, l'épisode Cravant.
C'est inventé par Picabia et Duchamp, l'affaire Cravant à New York pour un soi-disant un, soi-disant un show, enfin soi-disant une conférence d'Arthur Cravant, le grand poète français qui arrive. Et puis finalement, il arrivait tellement sous-bourré, etc., qu'il s'est mis quasiment à se mettre à poil. Enfin, ça s'est très très mal fini. Mais ça, c'est comme le mariage de Marcel Duchamp inventé par Picabien. Avec Lydie Sarrazin Levasseur, une femme assez ronde, même plus que ronde, hein. Et qui était soi-disant qu'il y avait de l'argent. Finalement, il n'y en avait pas. Mais c'est assez joli cette manière qu'il avait de Picabia, cette manière d'inventer des situations. C'est vraiment extraordinaire, je trouve. Il y a vraiment un rapport à la vie, finalement. Qui est fort, quoi, je pense.
Il subit pas le réel, il s'ennuie, il monte dans sa voiture, il fait 300 km. Enfin, voilà. C'est l'anecdote avec Apollinaire. Absolument. Apollinaire doit faire une conférence, il dit laisse tomber, on va à la campagne.
On prend la voiture.
Je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc on va écouter. Merci d'être venu. On était sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. J'étais avec Bernard Marcadet. Pour son livre Francis Picabia Rastaquer, grande biographie, Flammarion, vivement conseillé par La vie est un roman. Écoutez, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.